Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Êtes-vous celui qui doit venir? Quand Saint Jean-Baptiste envoie ses deux disciples pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ si c'est bien lui le Messie qui devait venir, ce n'est pas parce que Saint Jean-Baptiste doutait lui-même de la mission de Jésus. Il voulait que ses disciples se rendent compte de la mission divine de Jésus en voyant son œuvre. Et en effet, pour répondre, Jésus n'avait qu'à les inviter à regarder les fruits de sa mission et les effets de sa puissance. Rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Et de même, aujourd'hui, l'Église, qui n'est autre chose que le Christ continué sur la terre, dit au monde, écoutez et regardez. Ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, c'est-à-dire des hommes de bonne volonté, ils n'ont qu'à se rendre à l'évidence. Qu'entendent-ils? Une doctrine divine. Et que voit-il? Une sainteté surhumaine, des miracles surnaturels. D'abord, une doctrine divine, sublime. La doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ était nouvelle. Nous avons du mal à comprendre aujourd'hui combien la doctrine de Jésus avait changé la face de la terre, avait changé la société tout entière. D'abord la prédication de Jésus lui-même, et puis ensuite par ses apôtres qui ont annoncé l'évangile au monde. Jésus et ses apôtres prêchaient des vertus que les païens ignoraient complètement et que les juifs, figés dans leur tradition humaine, avaient oublié. L'humilité, la pauvreté, la chasteté, le détachement des biens de ce monde, la protection des faibles et surtout l'amour des ennemis et le pardon des injures. Les foules étaient émerveillées en entendant Jésus. Ils disaient « Jamais un homme n'a enseigné de telles choses ». Et de plus, cette doctrine qui a enthousiasmé le monde quand elle a été prêchée pour la première fois, garde encore aujourd'hui, et gardera toujours d'ailleurs, toute sa fraîcheur, toute sa nouveauté. Toutes les doctrines humaines, pour aussi originales qu'elles semblent être, rabâchent toujours les mêmes vieilles erreurs philosophiques mises au goût du jour. L'évolution, le panthéisme, le fatalisme. Mais cette doctrine divine, sublime, est pourtant conforme à la raison. La doctrine catholique éclaire et précise les vérités qu'on peut découvrir par la raison seule. Un seul Dieu qui récompense les bons et qui punit les méchants. Nos devoirs de justice envers le prochain, mis en lumière, par exemple, les règles de justice à pratiquer même envers les ennemis de guerre, ou la sainteté et l'indissolubilité du mariage, et en même temps, les mystères surnaturels que l'Église enseigne ne sont nullement absurdes ou contre la raison. Au contraire, ces mystères surnaturels mettent en évidence l'harmonie entre certaines vérités que nous pouvons connaître sur Dieu par la raison seule. Le dogme de la Trinité montre l'harmonie entre l'unité et la fécondité en Dieu. L'incarnation et la rédemption concilient la justice et la miséricorde infinie de Dieu. En voyant Dieu qui s'incarne lui-même pour mourir en réparation de nos péchés, met en évidence la miséricorde de Dieu en ne sacrifiant rien de sa justice, parce que en mourant sur la croix, Jésus rend à Dieu une réparation de même valeur que l'offense, une réparation infinie. Toutes ces vérités sont d'une parfaite cohérence entre elles, au point que toucher à une détruit le tout. Et on a la preuve de cette harmonie par les objections contradictoires de nos ennemis. Les puritains reprochaient à l'Église d'être débauchée, alors que les libertins reprochent à l'Église d'être trop exigeante. Les railleurs rationalistes traitent le catholicisme de religion de femmelette, alors que d'autres critiquent l'Église pour, soi-disant, mépriser la femme. On critique l'Église pour avoir voulu empiéter sur les droits des États et en même temps pour avoir été trop servile à l'État, envers l'État, etc. Alors maintenant, la sainteté. Notre Seigneur met en évidence la sainteté de son œuvre. Jésus était le modèle vivant et le plus achevé de toutes les vertus et de toutes les perfections. Aucun de ses contemporains n'a pu relever la moindre faute morale chez lui. Il fait lui-même ce qu'il a enseigné aux autres. Sa vie est une vie de renoncement et de détachement total des biens de la terre. Pendant sa vie, il n'avait même pas où reposer sa tête. Et par humilité, il fuit la gloire humaine. Et sa pauvreté va à un tel point que quand il est mort, il est enseveli dans un sépulcre emprunté. Et pourtant, cette vie de renoncement à l'extrême est faite sans exaltation ni excès. Jésus a su se rendre à des festins. À Cana, par exemple, il change de l'eau en vin. C'est pas un illuminé qui va à l'excès dans ses doctrines. Et qui reconnaît, il donne une juste indulgence envers la faiblesse humaine. Jésus était fort quand il le fallait pour dénoncer l'injustice, par exemple avec les changeurs du temple. Il était doux, pourtant, envers les pécheurs pénitents, par exemple la femme adultère. Il a donné un exemple de patience surhumaine pendant sa passion, dans des souffrances physiques atroces, accompagnées de l'épreuve morale de l'abandon de tous ses amis. Est-il besoin de comparer la sainteté de Jésus avec la vie morale des fondateurs des fausses religions? Celui connu sous le nom de Bouddha a abandonné sa femme et ses enfants. La vie de Mahomet n'est que violence et concupiscence de la chair. Luther s'est suicidé après une nuit passée dans l'ivresse. Henri VIII a fondé la soi-disant église anglicane pour pouvoir divorcer, etc., etc. Remontez à l'origine de n'importe quelle secte protestante, et vous trouverez quelquefois un homme sanguinaire, très souvent un fou et toujours un orgueilleux. Et enfin, cette sainteté de Jésus se manifeste à travers les âges dans les membres de son corps mystique, c'est-à-dire l'Église qu'il a fondée. Il y a d'abord toute cette phalange de saints canonisés qui ont exercer la vertu à un degré héroïque, mais à côté d'eux, vous avez aussi dans tous les âges, dans tous les endroits où il y a une communauté catholique, proportionnellement, ce sont des catholiques qui mènent une vie morale supérieure à ce qui les entoure, le contemporain. Et cela, justement, dans la mesure où ils appliquent la doctrine de Jésus et dans la mesure où ils fréquentent les sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis enfin, les miracles. Jésus met devant les yeux des disciples de Saint Jean ces miracles. Les miracles de Jésus étaient innombrables. Partout où il allait, les foules amenaient leurs malades et leurs possédés pour être guéris. Il a ressuscité des morts, il a redonné la vue à un aveugle né, il a multiplié des pains devant des milliers de gens, et surtout, évidemment, il s'est ressuscité lui-même après avoir été crucifié. Et nous savons que ces récits de ces miracles sont absolument vrais. Nous le savons surtout pour deux raisons très simples. D'abord, la vérité de ces miracles a été affirmée sans défaillance par des personnes qui n'avaient aucun intérêt à le faire. Au contraire, les apôtres et les premiers disciples de Jésus sont quasiment tous morts martyrs dans les souffrances inimaginables, alors qu'ils auraient pu avoir la vie sauve et même des bienfaits matériels considérables en niant leur témoignage, niant l'Évangile. Et puis deuxièmement, aucun des ennemis de l'Église et de Jésus, parmi les Juifs et les païens qui vivaient à cette époque-là, n'ont contesté ces récits. Ils se sont livrés à des théories invraisemblables pour expliquer les faits. Par exemple, les Juifs disent que Jésus était une espèce de magicien, mais aucun n'a pu nier les faits qui étaient publics, qui étaient devant les yeux de tout le monde et connus de tout le monde à l'époque. Depuis l'ascension de Jésus, les miracles n'ont jamais manqué dans l'Église. La propagation de l'Église dans le monde a été toujours accompagnée de miracles. D'abord les apôtres qui ont prêché dans tout le monde civilisé. Ensuite les premiers apôtres de toutes les régions, par exemple Saint Martin dans les Gaules. Monseigneur Gaume, à la suite de Saint Augustin, je crois, dit que nier le fait que la propagation de l'Église dans le monde a été accompagnée d'innombrables miracles, c'est faire appel à un plus grand miracle encore, c'est-à-dire d'expliquer comment savoir expliquer la diffusion admirable dans le monde entier d'une religion fondée par un juif d'origine obscure, mort, crucifié, d'une religion persécutée cruellement pendant 3 siècles par les pouvoirs civils et religieux, d'une religion qui demande l'exercice de vertus difficiles et qui n'offre aucun avantage dans cette vie. Comment expliquer la diffusion de cette religion sans des miracles? Ça serait lui-même un miracle. À toutes les époques, il y a eu des saints à miracles, y compris le XXe siècle avec le Padre Pio. Et que dire de ces deux images miraculeuses de Notre Seigneur et de Notre-Dame sur le linceul de Turin et l'image miraculeuse de Notre-Dame de Guadeloupe, qui sont des miracles permanents. Toutes les deux ont été examinées et réexaminées par des hommes scientifiques, parfois les hommes scientifiques qui n'ont pas la foi, et chaque fois on découvre de nouvelles merveilles. Alors c'est justement aujourd'hui même, le 9 décembre, le jour de la première apparition de Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique, il y a 500 ans. Donc je vous donne quelques détails sur cette merveille. Le tissu du manteau est rugueux et ne se prête pas à la peinture. C'est un tissu si lâche que l'on peut voir le jour à travers. Il ne s'y trouve aucun pigment et aucun coup de pinceau, et il n'y a aucune couleur dans les fibres du tissu. L'image est empreinte miraculeusement, un peu comme la projection permanente d'une diapositive sur la toile. Alors, dans les yeux de la Vierge, dans l'image, les yeux de l'image se comportent à l'examen comme s'ils étaient vivants. La pupille réagit à la lumière comme un œil vivant. Et dans l'œil, dans la pupille, il y a l'image de l'évêque et puis de Juan Diego, l'Indien qui avait porté le manteau, avec les roses rouges dans ses mains. Et puis on voit l'interprète qui est à côté, toutes les personnes qui étaient dans la salle. Les étoiles sur le manteau coïncident parfaitement avec la carte des étoiles du ciel au soir du 12 décembre 1531. Parce qu'en fait, c'était le 12, quelques jours après la première apparition, que le miracle s'est fait. Et puis, il y a la conservation même de ce manteau. Il est fait de matière végétale, alors que d'autres manteaux faits de la même matière sont tous tombés en poussière après une quinzaine d'années. Et lui, il reste 500 ans, toujours, avec la même fraîcheur. Et même en 1791, on avait laissé tomber par erreur de l'acide nitrique sur le manteau. Ça a fait un trou de 10 cm de diamètre. Et 30 jours après, le tissu était reformé sans que personne n'intervint pour réparer l'accident. En 1921, un anarchiste a voulu faire exploser la chapelle. Il a mis un vase de fleurs avec de la dynamite dedans. Ça a tout détruit autour, sauf le manteau miraculeux avec la vitre qui l'entourait. On voit, il y a même une photo du crucifix qui était devant, qui est tout plié en deux par la force de cette explosion. Et puis aussi, une dernière chose, ce manteau conserve sans aucune explication la température du corps humain aux alentours de 37 degrés. Donc, quelle est la conclusion pratique de tout cela? Il faut nous instruire sur l'apologétique, c'est-à-dire la science de la défense de notre religion, les preuves de l'origine divine de notre religion. Les troubles actuels en France font qu'un certain nombre de nos contemporains commencent à ouvrir les yeux. Mais il leur manque des bases solides pour bien comprendre que le mal de notre époque vient du rejet de notre Seigneur et de son Église. Nous devons être prêts à leur donner la vérité. Vous avez sur le portique des tas de plaquettes et de livres sur l'apologétique. Vous avez, il y a deux plaquettes très intéressantes, très abordables et très intéressantes sur la valeur des miracles et l'authenticité de l'Évangile. Ça, c'est impressionnant. Jésus est un personnage historique qui est mieux attesté que Jules César et compagnie. Et quand on voit les études qui ont été faites sur l'authenticité de l'Évangile, des textes qui nous restent de l'Évangile, les textes de l'Évangile, ça n'a rien à voir avec le Coran. Nous devons être fiers de cela, que nous ayons la vérité. Vous avez ces deux plaquettes-là, ce n'est même pas des plaquettes, c'est des espèces de brochures, c'est très facile à lire. Vous avez des tracts qui sont gratuits, à donner à des témoins de Jéhovah, à des protestants, à des juifs, sur plein de sujets, et puis d'autres plaquettes de Sœurs de la Terre sur divers sujets. Il faut les lire, il faut nous instruire. Sinon, vous avez des livres sur la doctrine sociale de l'Église. Il faut être prêt à répondre à toutes ces âmes qui risquent de se perdre si on ne sait pas leur répondre quand ils s'interrogent. Alors, demandons à Notre-Dame de Guadeloupe de nous donner ce zèle pour les âmes, et puis peut-être ça peut être une bonne résolution pour l'avant de lire au moins un petit livre sur ces sujets. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.